Je vous invite à prendre vos Bibles dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, et là nous avons dans les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17, ce sont les paroles de Jésus dans la chambre haute, juste la veille de sa crucifixion. Donc ce sont les dernières paroles. Pensées de Jésus, les dernières paroles de Jésus à ses disciples, juste avant de se laisser crucifier sur une croix. Donc, nous sommes au Jean chapitre 17. Jésus, comme nous l'avons dit, venait de leur dire qu'il allait être trahi par l'un d'entre eux, et eux avaient du mal à l'imaginer. Il vient de leur dire qu'il va les quitter et il vient aussi de leur dire que lui aussi, que Pierre va le renier. Alors toutes ces nouvelles dans la même soirée, eh bien ces deux, ces disciples, les onze qui restent, sont un peu affectés. Et donc au premier verset du chapitre 14, il dit « Que votre cœur ne se trouble point ». Oui, mais avec ce qu'on a entendu, il dit non, attendez, laissez-moi terminer, je vais vous dire, j'ai des choses. Et alors il commence à leur dire, que votre cœur ne se trouble pas, je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon père, il y a de la place pour tout le monde et je vous prépare une place. Déjà cela rassure un petit peu. Ensuite, il leur dit qu'il y a un chemin qui mène directement au Père. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Vous savez, souvent, les hommes parlent de la porte qu'on va rencontrer au ciel, mais ce n'est pas biblique. La porte qui nous permet d'accéder au ciel est sur la terre. Une fois qu'on est passé par cette porte, Jésus est la porte, après la voie est ouverte jusque dans le ciel. Il n'y a plus de porte. Si une fois que je passe par cette porte, je passe par Jésus-Christ sur terre, eh bien après, la voie est ouverte. Il a dit « Je suis le chemin ». Et il dit aussi, vous savez, vous avez du mal à croire, à comprendre comment je peux être dans le Père et le Père peut être en moi. Et si vous avez des difficultés à le croire, eh bien regardez mes œuvres. Les œuvres que je fais, c'est le Père qui les fait en moi. Donc soyez rassurés. Et ils avaient, ces disciples avaient, pendant 3 ans et demi, ils avaient observé les œuvres de Jésus-Christ. Et chacune était merveilleuse, l'une plus merveilleuse que l'autre. Et ils étaient constamment dans l'étonnement. Et ensuite Jésus leur dit, vous savez, je vais partir et vous pourrez faire des œuvres plus grandes que les miennes. Non pas que vos œuvres seront plus grandes que les miennes, mais les œuvres que je ferai au travers de vous seront plus grandes que ce que vous avez vu jusque-là. Ils avaient vu des guérisons du corps. Mais il a dit, mais dès Pentecôte, vous verrez des âmes transformées, des vies transformées. Et ça, c'est une œuvre plus grande que la guérison d'un corps. Et quand nous pouvons avoir ce qu'il y a de plus, le meilleur et de plus permanent. C'est comme Jésus a guéri Lazare, c'est extraordinaire, mais Lazare est mort quelques années plus tard. Tandis que lorsque Dieu a transformé Saul de Tarse, eh bien il est resté transformé pour l'éternité, il n'est pas revenu. Ça c'est une œuvre plus grande que la résurrection de Lazare. Et il dit, ces œuvres-là, vous pourrez me demander ce que vous voudrez en rapport avec ces œuvres-là, et je le ferai. Dieu interviendra, et Jésus demandera. Alors nous allons maintenant lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 21, parce que Jésus annonce encore une nouvelle chose. qui doit les rassurer. Donc Jean chapitre 14, et je lis de versets 15 à 21. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Là, en peu de mots, il y a beaucoup de pensées nouvelles, des pensées qui dépassent même notre entendement. Mais c'est toujours en rapport avec ce que votre cœur ne se trouble point. Ne paniquez pas, vous entendez des nouvelles, vous entendez des choses qui dérangent, vous entendez des choses qui troublent, mais tournez vos pensées vers mes paroles et mes pensées, c'est mes promesses. Et Jésus leur donne des paroles sur lesquelles ils pourront compter. Il a dit, c'est vrai que je vais partir, mais je ne vais pas vous laisser orphelin. Le mot grec orphelin, on pouvait être orphelin d'un parent, hein, et était considéré comme orphelin. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais je vais vous envoyer un consolateur, un paraclétos. Et ce consolateur, c'est l'esprit de vérité. De nos jours, on est en grand manque de l'esprit de vérité, n'est-ce pas? Alors, l'esprit de mensonge règne, mais l'esprit de vérité est plus difficile à trouver. Mais il dit, le Père vous l'enverra. Je vous rappelle justement, au mois de juillet, j'ai fait une prédication sur le Consolateur, l'Esprit, donc vous pouvez revoir cela, retrouver cette prédication sur le site de l'Église pour le 27 juillet 2015. Mais ici, Jésus vient de parler aux disciples et vient de leur dire, vous savez, le Père fait des œuvres extraordinaires au travers de moi. Et si vous me demandez, je ferai de grandes œuvres. Et les œuvres, Dieu n'a pas changé de capacité. Il est autant capable de guérir, ressusciter et de transformer une vie. Il est encore capable de le faire, il n'a pas changé, il n'a pas perdu de sa puissance, sa force n'est pas diminuée, mais il a un plan qu'il veut réaliser. Et son plan, c'est finalement de sauver le plus grand nombre pour que le corps de Christ, l'épouse de Christ, puisse être complète, constituée et qu'elle puisse être dans la gloire. Jésus a dit, je demanderai au Père, hein, vous voyez là au verset 18, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Vous savez, ça c'est une... Jésus vient de leur dire, vous demandez ce que vous voulez, je le donnerai. Mais ce qu'il sait, Jésus sait que ça ne viendrait jamais à l'esprit du disciple de demander ce consolateur. Ils ne le connaissaient pas encore, ils n'étaient pas vraiment... Bon, ils avaient entendu parler de l'Esprit de Dieu, tout ça, mais vraiment, ce ne serait pas venu à l'esprit des disciples de demander le Saint-Esprit. Mais Jésus a dit, moi je vais le faire, parce que je sais que vous en avez besoin. Et sans lui, vous n'irez pas loin. Et sans lui, vous ne pourrez pas faire ses œuvres. Donc, moi, je prierai le Père, et il vous donnera le Consolateur. Vous savez, parfois, dans notre vie chrétienne, parfois, eh bien, on ne pense pas à tout. On est tellement humain, on demande ce qu'on a besoin pour aujourd'hui, ou pour la semaine prochaine. On ne sait pas projeter, on ne sait pas tout demander, comme un enfant qui demande à sa mère, il ne demande pas pour ce soir ce qu'on va manger ce soir, il dit qu'est-ce que je mange maintenant. Et nous, souvent, comme ça, devant Dieu, on pense aux besoins immédiats, mais on ne pense pas. Mais heureusement pour nous, Jésus prie pour ceux dont nous avons besoin et auxquels nous ne pensons pas. Soyons rassurés. Si j'oublie de demander pour quelque chose, le Seigneur le demandera pour moi. Il savait que les disciples ne demanderaient jamais pour le Saint-Esprit, mais il savait qu'ils en avaient besoin. Et Jésus dit, moi je prierai le Père. Et ce que nous savons aussi, et Jésus le dit justement devant la tombe de Lazare, au Jean chapitre 11, il dit, Père, je sais, tout ce que je te demande, tu me le donnes. Et donc nous savons que quand Jésus dit, je prie le Père qui me donnera l'Esprit, le Consolateur vous l'enverra, eh bien, c'est comme si c'était déjà arrivé. Quand Jésus demande, c'est comme si on l'avait déjà. Et donc, l'Esprit, ce Consolateur, eh bien, il est là. Hein? On n'a pas besoin d'y penser, on n'a pas besoin de plaider. Ça, c'est quelque chose qu'il veut nous donner. Il sait que nous avons besoin, il nous le donne le plus tôt possible. Ce que Jésus demande pour les disciples, c'est un autre consolateur, Paraclétos. Vous savez, consolateur, quand vous pensez consolateur, il ne faut pas penser à consolateur dans le sens d'une maman qui console son petit qui vient de se faire mal parce qu'il est tombé. C'est pas, il nous fait des bises et puis il nous dit ça ira, et puis il nous retient, il nous nettoie, tout ça. Non, c'est pas consolateur dans ce sens-là. Le mot qui a été pris, consolateur, paraclétos, ça veut dire c'est celui qui se tient près de moi, celui qui est à côté de moi en tout temps. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, ce même mot paraclétos a été traduit par avocat. Nous avons un avocat. Un avocat, c'est celui qui se tient près de moi. Quand vous allez passer en justice, que vous soyez coupable ou pas, vous avez besoin d'un avocat. Pourquoi ? Un, parce qu'il comprend la loi. Deux, parce qu'il comprend le langage du juge. Et il peut le traduire dans votre langue. Et aussi, et quand vous avez à parler, il vous dira, dites ceci. Ça, c'est le rôle de l'avocat. Bon, ici sur terre, on les paye. Celui que Jésus nous donne, c'est celui qui se tient près de nous. Lorsque Dieu nous parle, il nous aide à comprendre. Lorsque je lis la Bible, qui est-ce qui m'aide à comprendre la Bible? Si ce n'était pas pour l'Esprit de Dieu, je ne comprendrais rien du tout. Et vous avez certainement rencontré des gens qui vous ont dit, moi, je lis la Bible, mais je n'ai rien compris. Mais oui, c'est vrai, parce que sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de le comprendre. Et si vous avez compris quoi que ce soit dans la Bible, eh bien, dites-vous, le Saint-Esprit est en train de travailler chez moi. Il veut m'apprendre des choses. J'ai dit que l'avocat, c'est celui qui nous aide à comprendre le langage du juge. L'Esprit, le Consolateur, cet avocat que Dieu nous donne, c'est celui qui nous aide à comprendre les paroles de Dieu. Ce sont des pensées qui sont au-delà de nos pensées, qui nous échappent. On ne peut pas saisir, on ne peut pas comprendre. Mais le Saint-Esprit m'aide. Il me dit, il rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il dit, Dieu te dit que tu es son enfant. Je ne comprends pas. Écoute, je t'aide à comprendre. Ça veut dire que tu peux l'appeler Père. Ah ! Et comment je dis ? Il dit, écoute, je t'aide, tu dis Abba, Père. Il est là près de moi pour m'aider. C'est ça le Consolateur. Jésus dit, je vous envoie, je sais que vous avez besoin. Vous êtes sur une planète, Dieu c'est une autre. et vous avez besoin de quelqu'un qui se tient près de vous en toutes circonstances, devant toutes circonstances, dans toutes les situations, à tout moment, à chaque fois que vous ouvrez la Bible. Bien sûr, si vous n'ouvrez pas la Bible, comment il va vous expliquer quelque chose? Mais il faut l'ouvrir pour qu'il puisse l'éclairer. Mais il est là, il est près de nous pour nous aider. Et si vous avez du mal à comprendre l'effet de la présence du Saint-Esprit en nous, lisez les Actes des Apôtres et voyez ce qui s'est passé chaque fois que les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Hein? Regardez dans Actes chapitre 4, les disciples Pierre et Jean venaient d'être relâchés, ils avaient été menacés. Et ils prient Dieu et disent: Dieu, tu as entendu ce qu'ils disent? Et c'est vrai que Hérode et Pilate se sont ligués pour tuer ton fils, mais tu l'as ressuscité. Donne-nous le courage de parler. Et il fut rempli du Saint-Esprit, et pour eux, c'était une joie de ressortir. Ces Galiléens qui, quelques semaines plus tôt, s'étaient enfermés dans la chambre haute, justement celle-ci dont on parle, maintenant, ils descendent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient besoin, Jésus savait ce dont ils avaient besoin. Ils savaient que sans le Saint-Esprit, ils seraient encore dans la chambre haute. Mais grâce au Saint-Esprit, ils sont sortis dans la rue. Et c'est les autres qui se posaient des questions. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous aider à comprendre les pensées de Dieu et aussi pour nous conduire pour que nous puissions vivre à la gloire de Dieu. Jésus nous dit qui est ce consolateur. Il nous dit: le consolateur, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Pourquoi faut-il un esprit de vérité? Parce qu'il y a un esprit d'erreur, parce qu'il y a un esprit de mensonge. Il y a quelqu'un dans ce monde qui est constamment en train de raconter des mensonges. Et vous savez, des mensonges, sur un sujet, on peut en raconter beaucoup. Parce qu'il y a plusieurs manières de dire faux, mais il n'y a qu'une seule manière de dire vrai. Et donc, vous avez toutes sortes de religions, vous avez toutes sortes de philosophies, vous avez toutes sortes de gens qui parlent. Tout ça pour détruire, mais il y a un seul qui est là pour bâtir, et c'est le Saint-Esprit. Vous savez ce que Jésus a dit de Satan, le malin? Il a dit: c'est un menteur depuis le début et c'est le père du mensonge. Et il est derrière tout mensonge, surtout concernant Dieu. Maintenant, il se déguise, il se dissimule, il parle au travers des autres. Bien sûr, sinon on réagirait. Il n'y a personne qui dit: moi j'aimerais entendre les paroles du diable. Mais s'il les met dans la bouche de quelqu'un de présentable, après je me pose deux fois la question. Hein. Il dit: je vous envoie l'esprit de vérité. Jésus venait de dire, et c'est au début de ce chapitre-là, il venait de dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit: je vous envoie l'esprit de vérité. C'est-à-dire, ce sont deux de même nature et qui vont dans le même sens et qui vont mettre en valeur la parole inspirée de Dieu. Le Saint-Esprit, il est esprit de vérité. La vérité que nous avons, c'est celle qui nous a été révélée, la parole de Dieu. L'esprit ne peut qu'être conforme à ce qui est marqué ici. Si jamais vous avez l'impression que Dieu vous parle, mais c'est autre que ce que la Bible dit, eh bien dites-vous, il y a un problème. Je n'ai pas confiance dans ce que j'entends, mais j'ai confiance dans ce que je lis. La parole de Dieu est sûre. Et elle s'est confirmée au travers des siècles. Donc, restons fidèles à celui qui est toujours conforme. Remarquez, au verset 17, il dit: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, le Père, l'Esprit de vérité, le Consolateur ne peut être reçu que par les enfants de Dieu. Le monde ne peut pas le recevoir, donc bien sûr il ne peut pas comprendre, il ne peut rien voir, il y a des choses qui les échappent complètement. Et donc, nous n'allons pas les condamner, nous allons avoir pitié d'eux. Hein. Quand je vois un aveugle, est-ce que je me moque de lui? Non. J'essaye de le guider. Je le respecte. Et lorsque nous sommes avec les gens du monde, et lorsqu'ils disent des choses, on dit oh, « pauvre de toi, c'est dommage que tu ne vois pas clair. » Parce que si tu voyais ce que je vois, hein, j'ai rencontré une fois un frère, il est dans le Seigneur, hein, le frère Gaston Ouran, il est aveugle de naissance. Eh bien, ce n'est pas à lui que je vais demander de me décrire un lever de soleil. Et même, j'ai essayé de lui décrire un lever de soleil, et ce n'est pas possible. Comment lui décrire un lever de soleil? On lui dit qu'il y a de la lumière partout, il ne sait pas ce que c'est que la lumière. On lui dit que c'est orange, et puis après ça devient plus clair. Il ne sait pas ce que c'est qu'orange, il n'a jamais vu orange. On lui dit... c'est brillant, il ne sait pas ce que ça veut dire, brillant. C'est-à-dire, c'est tous les mots qu'on emploierait pour décrire, c'est des mots qu'il ne connaît pas. Parce qu'il est aveugle. Tout ce qu'il a des oreilles, et il entend que quand il y a un lever de soleil, les gens font « Ah, oh, c'est beau !» Il se dit « Il y a quelque chose qui m'échappe, mais je ne comprends pas. » Mais vous savez, c'est la même chose pour un enfant de Dieu, quand il parle de son expérience avec Dieu, il parle et les autres, ils écoutent, ils disent, je ne sais pas où il a ses idées. Mais c'est vrai, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas encore éclairés. Mais on a besoin de l'esprit de vérité qui est là. Il dit, le monde ne peut pas le recevoir. Mais il dit, vous le connaissez. Et car il demeure avec vous et sera en vous. Il dit, l'esprit de vérité, il dit à ses disciples, il a dit, écoutez, vous n'avez pas à le demander. Vous n'avez pas à prier, faire des nuits de jeûne pour avoir le Saint-Esprit. C'est moi qui ai prié. Et si Jésus a prié pour l'avoir, le Saint-Esprit est là. C'est au moment où je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, lorsque je suis, pour employer une expression du Seigneur, né de nouveau, lorsque je reçois cette vie nouvelle, je ne sais pas comment je suis né, pas plus que je ne comprends comment je suis né de ma mère. Hein? Mais je suis né, et je sais que je suis né. Eh bien, ce moment-là, je reçois l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a dit, cette nouvelle naissance, elle se fait par l'Esprit. Le Saint-Esprit est déjà agissant là. Et il dit, moi j'ai demandé pour que vous ayez. Donc, à partir du moment que vous devenez un de mes disciples, vous avez l'Esprit de Dieu. À quel moment est-ce que je suis disciple? Eh bien, à un moment où je crois. Il est mon Seigneur, il est mon Maître, je suis son disciple. Et cette œuvre se fait en moi. Il y a d'autres choses qu'on demande, bien sûr. Je ne suis pas contre la prière, mais demander l'Esprit de Dieu, il a déjà demandé et il est déjà venu, il est là. Il dit, et il est en vous. Et vous pouvez le connaître. Bien sûr, connaître, c'est une chose qui se développe. Quand je me suis marié, j'ai dit, je la connais. Maintenant, après 41 ans de mariage, je dis, ce que je connaissais à cette époque-là, c'était rien du tout. Bon, heureusement qu'elle n'en savait pas plus sur moi. Mais ça, c'est un autre problème. Mais, vous savez, c'est en vivant ensemble, en marchant ensemble, qu'on se connaît. Le mot « connaît », il prend un sens nouveau constamment, chaque jour. Au fur et à mesure que la relation se développe, le mot « connaître » devient de plus en plus riche. Et c'est là, pour l'enfant de Dieu, bien sûr, il le découvre tout au début. Il découvre, je reçois le Seigneur dans mon cœur, et tout d'un coup, j'ai la joie, le sourire apparaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi?
La joie.
Dès que je découvre cela, tout d'un coup, les choses deviennent claires. Mais oui, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de lumière. C'est tout d'un coup, un jour nouveau apparaît. Je m'appelle... Nous avons un frère à Paris qui avait un problème de cornée. Donc il voyait très mal au travers d'un brouillard. C'est comme vivre tous les jours en regardant au travers d'un voilage. Et puis un jour, ils font une greffe de la cornée et tout d'un coup, il a une cornée limpide. Eh bien, vous savez qu'il a un mal de tête pendant plus d'une semaine. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, le cerveau, il doit tout changer, toutes les images. La manière de voir, il me regarde, il me voyait d'une manière avant. Mais maintenant, tout d'un coup, il me voit autrement. Et donc, il faut remplacer l'image. Et le cerveau, tellement qu'il travaillait à remplacer, corriger toutes les images, il avait un mal de tête, il a dû arrêter les études pendant une semaine. Il a été voir son professeur, il a dit « je ne peux pas, je n'arrive pas à suivre ». Mais vous savez, quand vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, et tout d'un coup, ça devient clair, tout d'un coup, vous voyez tout autrement. La Bible nous appelle le renouvellement de l'intelligence. Je commence à voir les choses autrement. Et je vois plus clair. Et ce qui fait paniquer les autres ne me fait pas paniquer. Oui, l'esprit de vérité, nous l'avons. Et suivons-le. Et au fur et à mesure que nous le suivons, que nous marchons avec lui, hein, et nous le laissons conduire par lui, eh bien, nous sommes enseignés par lui. Et lorsque je me soumets pleinement à lui, eh bien, je suis rempli. Hein, et à Éphésiens, il dit d'être rempli de l'esprit. Il prend l'image de celui qui est ivre. Parce que l'alcool a pris possession de la personne. Il dit, soyez ivres de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'ils prennent possession. Bon, l'alcool, ça change le comportement, il n'a rien à voir avec être rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit, tout d'un coup, c'est un nouveau sérieux. Après, je continue ici dans ce passage. Nous voyons que Jésus dit tout ça, vous savez, encore nous, c'est un peu, ça nous échappe un peu, mais pour les disciples, alors là, c'est complètement nouveau ce qu'il est en train de leur raconter. Alors, ils sont là en train de le regarder avec de gros yeux. Mais ils ne saisissent pas complètement. Il dit, écoutez, vous avez du mal à comprendre. Je vais vous donner un signe, je vais vous dire. Comme ça, vous saurez que vous l'avez. Parce que, bien sûr, le Saint-Esprit, c'est pas visible, hein, c'est esprit. Alors, il dit, au verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, je viendrai à vous. Qu'est-ce qu'il veut dire, je viendrai à vous? Il dit, justement, c'est ça le signe. Parce que, regardez ce qu'il dit après. Il dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. C'est-à-dire, le lendemain, quand Jésus est en train de parler, le lendemain, Jésus sera sur une croix. Il va mourir sur la croix et c'est la dernière fois que le monde inconverti le verra. Mais les disciples l'ont revu. 3 jours plus tard, ils étaient dans la chambre haute, ils tremblaient et Jésus apparaît. Et pendant 40 jours, ils l'ont vu. Et dans 1 Corinthiens 15, il nous dit que même une fois, ils étaient plus de 500 qui l'ont vu. Il dit, vous savez, vous me verrez. Et parce que vous m'avez vu, vous savez que le Saint-Esprit, vous le recevrez. Et puis sur le dernier jour, au bout de 40 jours, il est sur le mont des Oliviers avec les disciples. Et puis tout d'un coup, il leur donne une mission. Il leur dit, vous savez, rentrez à Jérusalem et attendez là jusqu'à ce que je vous envoie l'Esprit. Et ensuite, il monte. Il aurait pu partir comme ça en un clin d'œil, et puis les disciples ont dit, mais il est passé où ? Il est monté tout seul pour qu'eux puissent le voir monter. Il est monté, et il a disparu dans une nuée. Il a dit, vous m'avez vu, vous recevrez l'Esprit. Et 10 jours plus tard, c'est le jour de Pentecôte, c'était un jour férié, c'est une fête. Les disciples étaient en train de prier dans la chambre haute. Ils étaient 120 à ce moment-là. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Et ils l'ont su. Parce que, un, ils se sont mis à parler en langue. Les langues comprises par les gens qui se trouvaient à Jérusalem. Et ils ont su qu'ils l'ont reçu parce qu'on voyait des langues de feu sur chacun pour nous indiquer qu'il n'y avait pas seulement Pierre qui l'avait reçu, mais tous avaient reçu. Vous savez, Dieu, il est quand même, il connaît l'être humain. Et il donne juste ce qu'il faut pour qu'on ne se pose pas de questions. Et c'est toujours clair. Et dans la chambre haute, il y avait des hommes et des femmes. C'est important, parce que c'est sûr qu'il y aurait un farfelu qui viendrait nous dire « Non, non, c'est le Saint-Esprit, c'est uniquement pour les hommes. C'est uniquement pour les responsables d'église. » Dieu prévoit les farfelus. Il a dit « Tous furent remplis du Saint-Esprit. » Le lieu trembla. Ils ont entendu le souffle du vent. Le Saint-Esprit est venu. Et vous lisez tout votre Nouveau Testament, vous lisez tous les épôtres, et il n'y a rien qui nous dit qu'il y soit parti depuis. Il est là pour le disciple, pour celui qui veut suivre le Christ. C'est le signe. Et donc, nous avons le témoignage de ce signe, et bien sûr, nous n'avons pas besoin de remettre en question le fait, la présence du Saint-Esprit. Il est là. Puisque Jésus a dit qu'il est là, il est là. Et on n'a pas besoin d'avoir que nos bâtiments tremblent à nouveau. Pas plus que Dieu a besoin de se reprouver chaque fois, réaffirmer à chacun. Non, non. Ce qui a été déclaré, ce qui a été fait, ce qui a été conformé, reste vrai jusqu'à nouvel ordre. Et ensuite, vous savez, il y a tout d'un coup, on a l'impression que Jésus change de sujet. Il va revenir, hein, on verra au chapitre 16, il reparlera du Consolateur, on en dira un peu plus à ce moment-là. Mais là, on arrive au verset 21. Il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Il dit, waouh, tout d'un coup, il change de sujet. Pour nous, êtres humains, on a l'impression qu'il change de sujet. Pour lui, c'est la suite. Comment séparer Esprit de Dieu et amour ? Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Les hommes peuvent avoir de l'affection, peuvent avoir de l'attachement. Ça vient à sa part. C'est un sentiment. Mais l'amour que le Saint-Esprit donne, c'est un amour qui permet d'aimer au point qu'on devient patient, d'aimer au point où on devient persévérant, aimer au point où on attend, parce qu'on a confiance. Mais ici, il nous parle, jusque-là, Jésus n'avait jamais parlé de l'amour des disciples pour lui. Si vous regardez, il a parlé de, il a mis le comble à son amour, il nous dit au début du chapitre 13, quand il a lavé les pieds des disciples. Il a dit, il a mis le comble à son amour pour eux. Et puis au chapitre 13 et au verset 35, il dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est à ceci que le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc il part Donc d'abord, il a dit « Je vous aime ». Ensuite, il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et puis là, il passe, il dit « Et maintenant, c'est à vous de m'aimer ». Et je sais, vous parlez à n'importe quel chrétien, vous parlez à même des gens de culture chrétienne, judéo-chrétienne ou quelque chose, vous dites « Vous aimez Jésus ?» Bien sûr que j'aime Jésus. Prouve-le. Ah ben, je l'aime, hein, je l'insulte pas, je dis pas de mal sur lui. Ah bon, c'est comme ça. Et quand tu dis que tu aimes ta femme, c'est tout ce que ça veut dire. C'est une dame dans la vie que j'insulte pas. Dis, comment est-ce que tu aimes? Eh bien, il dit, en gardant mes commandements, c'est comme ça que vous montrez votre amour, en gardant mes commandements, tout simplement. Et il dit, si vous m'aimez, hein, il avait dit au verset 15 déjà, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quand il dit, si vous m'aimez, il n'est pas en train de remettre en question le fait qu'il l'aime. Il n'est pas en train de dire, je ne sais pas si vous m'aimez ou pas, mais si jamais un jour ça vous arrive de m'aimer. Non, non. Il dit, si vous m'aimez, ou dans un sens, imaginez, il dit, puisque vous m'aimez, je sais que vous aimez. Mais étant donné que le fait que vous m'aimez, donc, la manière de l'exprimer, ce sera en gardant mes commandements. Et le commandement qu'il vient de donner au chapitre 13, il a dit, je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres. C'est tout. Bah, écoute, moi, je connais des commandements plus faciles que ça. Hein. Aimez-vous les uns les autres, c'est pas évident. Parce que déjà, si vous pouvez mettre en pratique ce commandement, aimez-vous les uns les autres, vous avez déjà mis en pratique les 6 derniers commandements des 10 commandements. Parce que si on s'aime l'un l'autre, on ne mentira pas. Je ne peux pas mentir à quelqu'un que j'aime. Je ne peux pas voler à quelqu'un que j'aime. Je ne peux pas tromper. Je ne peux pas commettre adultère. Je ne peux pas être faux témoignage. Je ne peux pas désirer, convoiter le bien d'un autre si je l'aime. Alors déjà, c'est un bon début. Et après, si vous trouvez ça trop facile, alors lisez 1 Corinthiens 13. Il dit que l'amour est patient. Et puis continue, je vous laisse lire parce que je ne vais pas traiter ce passage-là. Mais aimez-vous les uns les autres, oui, ça contient beaucoup de choses. Il dit, mais lorsque vous gardez mes commandements, ce que j'ai enseigné, et il y tient. Parce que vous savez, dans la mission qu'il a donnée à ses disciples juste avant de monter au ciel, il a dit « Allez par tout le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus prend ça sérieusement. Gardez ce commandement. Ce n'est pas juste « Ben alléluia, le Seigneur m'a sauvé, je crois et je vais aller au ciel, c'est très bien. » Le dimanche, j'irai pendant une heure à l'église et tout ça, puis après le reste, c'est bon. Il dit, non, tu n'aimes pas le Seigneur. C'est pas aimer le Seigneur, c'est pas n'importe qui peut aller le dimanche. Il y a des milliers de musulmans qui vont à la mosquée. Il y a plein de gens qui vont à l'église pour la messe le matin. Ils vont partout. Ça ne coûte rien du tout. Il y en a qui vont à la boulangerie aussi régulièrement. Ça ne coûte rien d'aller quelque part. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça ce qu'il demande de nous. Et c'est à nous d'apprendre à aimer et à garder ces commandements. Et bien sûr, ces commandements, pour que nous les comprenions, eh bien, déjà, il faut... on a besoin de l'Esprit de Dieu. Hein. Il a parlé, verset 15, il parle de garder les commandements. Après verset 21, il parle de garder les commandements. Entre les deux, il parle de l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez pas aimer, vous ne pourrez pas garder mes commandements sans le Consolateur, sans l'Esprit de Dieu. Il est indispensable. C'est pour ça que c'est tout à fait dans le contexte. Alors il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si vous gardez mes commandements, je saurai que vous m'aimez. Il l'a dit dans les deux sens. C'est, vous mettez la flèche dans les deux sens. Aimer Dieu, c'est garder les commandements. Garder les commandements, c'est aimer Jésus. Il dit, et si vous m'aimez, le Père vous aimera, je vous aimerai. Il dit, et puis vous me connaîtrez, il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Vous savez, si je vous dis, je vous aime beaucoup, mais votre fils là, je ne le supporte pas. Mais écoute, si tu m'aimes ceux qui sont à moi, ceux que j'aime. Et Dieu dit, écoute, si tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois, qui est mon enfant, comment est-ce que tu peux dire que tu m'aimes? Si tu ne peux pas aimer celui que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois point? C'est facile de dire, ouais, moi j'aime tous les Chinois. Ils sont, bien sûr, la Chine c'est très loin. Commence par aimer ton voisin. Et après je te croirai, je croirai que tu es capable d'aimer tous ceux qui se trouvent au loin. Vous savez, les gens, il arrive une catastrophe au Tibet, ah, on peut ramasser des fonds. Il y a quelqu'un au bout de la rue qui est sans domicile fixe et on ne peut rien lui donner. C'est toujours facile de parler de ce qui est loin. Dieu sait cela. Il a dit non, ça ne marche pas chez moi. Commence à aimer celui qui est près de toi. Aime ton frère, aime ton prochain, aime le Seigneur. Et un jour, tu pourras même aimer tes ennemis. Et si on peut aimer les ennemis, après, qu'est-ce qu'il vous nous reste à aimer? Hein? Alors, il dit, voilà, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je vous ai donné l'Esprit Saint qui vous aidera à garder mes commandements, à les comprendre, à les mettre en pratique. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas et vous avez envie de dire à Dieu, le Saint-Esprit est là pour vous aider. C'est Romains chapitre 8, il dit, il est là pour interpréter entre nous. Et des choses que nous, on ne sait pas comment exprimer, lui, il les exprime en langage clair. Ce qui explique parfois que vous ne recevez pas ce que vous avez demandé. Parce que lui, il a demandé ce dont vous avez besoin. Et pour le bien. Vous savez, nous avons un Dieu extraordinaire. Et quand Jésus a prié pour le Saint-Esprit, il a prié pour quelque chose dont nous avons besoin et quelque chose de bien. Parce que tout ce qu'il désire pour nous, c'est une bonne chose. Et donc, n'essayons pas de vivre sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour l'Église, c'est pour tout le temps. C'est pour tous les jours. Il est dit, il est en vous, et il est toujours avec vous. Maintenant, vous pouvez l'ignorer, mais il est toujours avec vous si vous êtes enfant de Dieu. Pour avoir ce Saint-Esprit, bien sûr, il faut comprendre que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a pris sur lui tout mon péché. Je ne comprends pas comment ça se passe, mais justement, c'est pour ça que nous avons un Saint-Esprit qui nous aide à comprendre. Et à accepter. Il nous dit, c'est ça qu'il veut dire, c'est ça qu'il veut dire. J'ai du mal à l'imaginer. Non, mais c'est ça qu'il veut dire. Crois-le. Et ce sera vrai. Et le Seigneur nous aide, nous devenons enfants de Dieu lorsque nous recevons ce don de la vie éternelle. Et puis ensuite, à partir de là, il devient notre Seigneur, et donc nous vivons pour lui. Et cette vie transformée est une grande œuvre qui glorifie le Père. Que le Seigneur nous aide. Prions.